France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le Quai d'Orsay attribue au renseignement militaire russe le piratage de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Virginie Pironon nous en dira plus sur cette campagne de cyberattaque qui a multiplié les cibles ces dernières années. Comment expliquer la panne électrique générale qui a touché l'Espagne et le Portugal hier? La cause n'est toujours pas clairement identifiée. Nous ferons un point avec Marie-Hélène Ballestero à Madrid. Une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage à Aboubacar Cissé, tué vendredi dans une mosquée. Lors des questions au gouvernement, François Bayrou a insisté sur le devoir de vivre ensemble, compte rendu de Rosalie Lafarge. Et puis nous entendrons des médecins et étudiants en médecine mobilisés contre la régulation de leur installation, mesure visant à lutter contre les déserts médicaux. Le renseignement militaire russe est à l'origine du piratage de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Pour la première fois, la France porte officiellement cette accusation et condamne, je cite avec la plus grande fermeté, plusieurs cyberattaques qu'elle impute directement à Moscou. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, affirme que plusieurs entités ont été visées depuis 2021.
Oui, fait rare à 2 ans de l'élection présidentielle de 2027, Paris dénonce publiquement, je cite, « des activités déstabilisatrices inacceptables et indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Face à l'intensification de la menace, les autorités françaises ont donc décidé de rendre public un rapport publié aujourd'hui par l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information et le Centre de Coordination des Crises Cyber. Rapport qui dénonce l'usage d'un mode opératoire d'attaque russe bien identifié, désigné sous le nom de code APT-28, utilisé contre des pays de l'Union européenne, aux États-Unis et en Ukraine. Alors concrètement, c'est de l'espionnage. Il s'agit d'un mode opératoire qui ratisse très large et consiste par exemple à casser des mots de passe, contrôler des boîtes mail en utilisant des outils périphériques grand public comme des serveurs, des VPN ou des pare-feux. Selon la France, ces 4 dernières années, une 12aine d'entités ont été ciblées, comme l'explique cette vidéo publiée cet après-midi sur le compte Twitter de Jean-Noël Barrot.
Depuis 2021 en France, APT28 a multiplié les cibles, entités ministérielles, collectivités territoriales, mais aussi des entreprises de l'armement et de l'aérospatial, ou des secteurs économiques et financiers.
Et plus récemment, selon le Quai d'Orsay, des organisations liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont également été visées.
Selon les autorités françaises, il s'agit bien de la part du Kremlin de tenter de déstabiliser la société en y créant de la défiance, hein, Virginie.
Oui, avec comme cible privilégiée les médias, avec l'attaque en 2015 de la chaîne française TV5 Monde, ou encore la sphère politique, avec le piratage et la diffusion de milliers de documents internes de l'entourage d'Emmanuel Macron, juste avant la présidentielle de 2017. À noter que c'est le même mode opératoire russe, APT-28, qui en 2016 aux États-Unis a été accusé par le renseignement américain d'avoir interféré dans l'élection présidentielle afin de favoriser Donald Trump. Des dizaines de milliers de messages du Parti démocrate et de proches d'Hillary Clinton avaient été mis en ligne. Alors selon Paris, désigner désormais la Russie publiquement comme responsable de ces attaques vise à mieux les anticiper tout en ayant un effet dissuasif.
Merci Virginie Pironon. Après une journée de chaos en Espagne et au Portugal, l'électricité a pu être rétablie dans la péninsule ibérique. Mais comment être sûr qu'une telle panne ne se reproduise pas? À ce stade, les causes ne sont toujours pas connues et une enquête va être ouverte sur un éventuel cybersabotage. Depuis le palais de la Moncloa à Madrid, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s'est adressé à la population pour donner des explications. Marie-Hélène Ballestero.
Pour la 3e fois en 24 heures, Pedro Sánchez s'est adressé à la population depuis le palais de la Moncloa à Madrid. Sur un ton grave, il a tenté de donner des explications, mais ce n'est pas simple car à cette heure-ci, on ne sait toujours pas quelle est la cause exacte de la panne. Malgré toutes les questions et le sentiment d'incertitude qui règne, il a voulu se montrer rassurant.
Ce que les citoyens doivent savoir clairement, c'est que le gouvernement espagnol va aller au fond de cette affaire et que les réformes vont être faites et que les mesures nécessaires vont être prises pour que cela ne se reproduise plus. Et bien sûr, nous allons exiger de tous les opérateurs privés les responsabilités qui leur sont propres.
Et pour faire toute la lumière sur cette affaire, le gouvernement espagnol a décidé de créer une commission d'enquête qui sera chapeautée par le ministère de la Transition écologique. Alors que le gestionnaire du réseau électrique espagnol a exclut la possibilité d'une cyberattaque, Sanchez ne veut écarter aucune piste. Il s'est montré également catégorique concernant les critiques émises ces dernières heures par certains partis, dont la formation d'extrême droite Vox ou le Parti populaire, qui pointe du doigt l'excès d'énergie renouvelable dans cette gigantesque panne. Faux, rétorque Sanchez, et il va plus loin. Selon lui, la panne n'est pas liée à un manque d'énergie nucléaire en Espagne. Et tandis que la polémique continue, un juge de l'Audience nationale a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur un éventuel sabotage informatique.
Marie-Hélène Ballestero, correspondante de France Culture en Espagne. En Allemagne, un peu plus de deux mois après les élections législatives et l'arrivée en tête des conservateurs de la CDU-CSU, le chef du parti, Friedrich Merz, est en passe de devenir le futur chancelier. On connaît depuis hier le nom des 7 ministres chrétiens-démocrates qui devraient entrer dans le nouveau gouvernement, mais avant cela, il faut valider le contrat de coalition avec les sociaux-démocrates qui sont, eux, arrivés en troisième position derrière l'extrême droite. Hier, la CDU-CSU a donné son feu vert pour l'accord. De leur côté, les adhérents du SPD sont invités à se prononcer depuis deux semaines. Le vote se termine ce soir. Les résultats seront connus demain. Bonsoir Louis Lebacker.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Ce vote suscite des débats au sein du Parti social-démocrate.
Oui, la contestation vient surtout du mouvement de jeunesse du SPD, les Jusos. L'organisation dénonce le durcissement de la politique migratoire prévue dans l'accord. Plus de justice sociale, c'est ce qu'elle revendique en critiquant le retrait de l'allocation citoyenne. C'est le revenu de base pour les personnes au chômage. L'alternative inscrite dans le contrat de coalition prévoit plus de sanctions et de pression pour les allocataires. Les jeunes sociaux-démocrates appellent donc à voter contre l'accord et réclament de nouvelles négociations. C'est ce qu'ils avaient fait en 2018, juste avant la dernière coalition entre les conservateurs et le SPD. Mais ça n'avait pas suffi pour stopper l'alliance entre les deux partis. Et cette fois encore, le camp du non ne risque pas réellement de l'emporter. Les Jusos ne représentent qu'un cinquième des membres du SPD. L'accord devrait donc être voté sans grand enthousiasme toutefois. La direction du parti, qui avait déjà donné son aval, pointe le danger de nouvelles élections en cas d'échec du pacte. Alors que l'extrême droite grimpe en flèche dans les sondages, il redoute un rapprochement entre l'AFD et les chrétiens démocrates. Et si le contrat est voté, on devrait connaître le nom des ministres du SPD dans les prochains jours.
Louis Lebacker. Au Canada, les libéraux remportent les élections législatives, mais l'ancien banquier central Mark Carney dirigera un gouvernement minoritaire au Parlement. Il devra donc compter sur le soutien d'un autre parti pour gouverner. Nous y reviendrons dans le journal de 19h. Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, a lui perdu son siège à l'issue du scrutin. Défaite qui pourrait remettre en cause son poste à la tête du parti. Des milliers de manifestants, surtout des étudiants en médecine, ont défilé un peu partout en France aujourd'hui à l'appel des syndicats de médecins libéraux. La profession se mobilise contre une proposition de loi transpartisane et un plan de lutte présenté par le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux qui concernent 87% du territoire français, soit quelques 8 millions de Français. Mais pour la majorité des médecins, ces mesures ne régleront pas le problème. Jeanne Stémard a suivi le cortège parisien.
Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un article de la loi Garot visant à réguler l'installation des médecins sur le territoire. Autrement dit, un nouveau praticien ne pourra s'installer dans les territoires déjà riches en médecins uniquement lorsqu'un autre se retirera. La loi a déjà en partie été adoptée par l'Assemblée nationale début avril. Laetitia, médecin généraliste installée depuis 12 ans dans l'Essonne, s'y oppose.
Au lieu d'inciter, il est coercitif, il oblige. Je pense que c'est vraiment pas la bonne solution que d'obliger les médecins à s'installer et les obliger à s'installer là où ils ne veulent pas forcément.
Leïla, elle s'apprête à terminer ses 12 ans d'études spécialisées en gynécologie. Impossible d'envisager son avenir professionnel sous la contrainte.
C'est la goutte de trop, ça fait déjà depuis le début de mon internat qu'on entre à cette liberté. Et j'avais signé, c'était le deal pour ça, pour mon internat. On ne peut pas nous prolonger indéfiniment. Je pense que les sacrifices, on les a assez faits.
Vendredi dernier, pour apaiser la colère, le gouvernement a présenté un plan de lutte contre les déserts médicaux et a proposé une alternative à la régulation. À la place, 2 jours de consultation par mois dans les zones prioritaires du territoire seraient imposés aux praticiens, mais difficile pour certains médecins d'envisager de fermer leur cabinet et d'abandonner leurs patients, disent-ils. Pour Philippe Paranque, président de SOS Médecins France en Essonne et médecin généraliste depuis 40 ans, il s'agirait de trouver un équilibre.
Si on propose cette option-là à des médecins avec du volontariat et avec un peu de mesures incitatives, on va probablement trouver des volontaires pour faire ça.
Il faut
surtout pas contraindre. Vous allez en faire fuir 10 alors que peut-être que vous auriez pu en avoir 5 qui étaient volontaires pour y aller.
Le reste du texte de loi présenté par le député socialiste Guillaume Garot doit lui être examiné début mai.
Jeanne Stémard dans la manifestation parisienne avec Alexandra Bergel à la technique. Emeline Bonavent, de son côté, a sollicité l'analyse de Guillaume Chevillard, chercheur en économie de la santé à l'Institut de recherche et de documentation. Pour lui, c'est en multipliant les solutions que l'on peut espérer venir à bout des déserts médicaux.
Il n'y aura pas de recette unique et miraculeuse. Donc cette proposition de demander aux médecins d'aller travailler 2 jours par mois dans les zones sous-dotées, ça pourrait être une mesure complémentaire pour améliorer l'accès aux soins. Mais sachant qu'il y a beaucoup, en tout cas pour l'heure, d'inconnus sur sa faisabilité, comment ça va être mis en œuvre, qui va s'occuper des patients, des médecins qui vont aller dans les zones sous-dotées pendant qu'ils y sont. Donc c'est plutôt une solution qui est mise en avant, mais pour laquelle, pour l'heure, il y a beaucoup de questions et d'inconnus encore. Une proposition qui est très intéressante, c'est de diversifier les profils et l'origine géographique des étudiants en médecine, dont on sait que les étudiants issus de zones rurales sont sous-représentés. Et l'idée, elle part du principe que les étudiants issus de zones rurales s'installent davantage quand ils sont médecins dans ces zones plus tard, et que donc si on facilite leur accès à ces études, vous aurez une amélioration à long terme de la répartition des médecins sur le territoire. Donc ça peut être une piste qui est très intéressante et pour laquelle on a pas mal de preuves qui montrent que ça fonctionne.
Le chercheur en économie de la santé, Guillaume Chevillard. 4 jours après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard, l'Assemblée nationale lui a rendu hommage. Une minute de silence a été observée à l'ouverture de la séance cet après-midi. Mais elle a été obtenue sous la pression d'une partie des groupes parlementaires et le recueillement a été de courte durée. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Le sujet a de fait électrisé l'hémicycle. La gauche a dénoncé à l'unisson l'absence de soutien exprimé par le gouvernement à la famille de la victime. Et elle s'en est prise avant tout au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Oui, toute la gauche pointe l'attitude du ministre de l'Intérieur depuis vendredi. Sa venue jugée tardive dans le Gard, même pas sur les lieux précis, sans rencontrer la famille de la victime. Mais l'insoumis Abdelkader Lamar va plus loin.
Ce meurtre n'est pas un accident. Il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous laissez prospérer jour après jour. Votre ministre de l'Intérieur, lorsqu'il crie « à bas le voile », utilise des mots qui poussent ce crime.
Et il n'est pas le seul à reprocher à Bruno Retailleau ses propos, ses positions. Les socialistes, les communistes en font autant. L'écologiste Sabrina Sebaï aussi.
Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui, la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre.
Et l'insoumis comme l'écologiste y voit un motif de départ du ministre de l'Intérieur.
Renvoyez monsieur Retailleau.
Allez-vous-en !
Dans une ambiance qui se tend, Bruno Retailleau à chaque interpellation se défend.
J'ai été ici sans doute un des premiers à réagir. Et dès que j'ai pu, je me suis déplacé.
Et l'homme de la place Beauvau à son tour accuse ses adversaires du jour.
Ce bruit... C'est simplement un prétexte à la récupération. Vous voulez diviser la France, vous voulez, comme à votre habitude, hystériser le débat politique. Je ne vous laisserai pas faire.
Instrumentalisation dénoncée aussi par la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ou le patron du groupe Ensemble, Gabriel Attal, quand le Premier ministre François Bayrou lui tente l'apaisement, promettant de défendre pas à pas et jour après jour notre devoir de vivre ensemble.
Plusieurs députés ont par ailleurs interpellé le Premier ministre au sujet de la création d'une contribution locale modeste pour financer les collectivités dans le cadre du budget 2026. Une piste avancée par le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen. François Bayrou répond qu'aucune mesure d'impôt nouveau n'est en préparation. Le Conseil supérieur de la magistrature fait part de sa grande préoccupation. Dans son bilan de l'année 2024, le CSM constate que les mises en cause à l'encontre de l'institution judiciaire sont en train de s'étendre à des attaques contre les magistrats eux-mêmes en tant que personnes. Ces attaques concernent aussi bien des magistrats qui luttent contre le narcotrafic que ceux qui rendent des décisions dans des dossiers sensibles, comme celui des assistants parlementaires européens du FN. Bonsoir Anne Fockenberg.
Bonsoir.
Des réflexions sont donc en cours en vue de mieux protéger les magistrats.
Oui, et parmi les témoignages de magistrats rencontrés ce matin, celui de Clara Grande, elle est membre du CSM en poste à Marseille, où de plus en plus de ses collègues sont confrontés à ces menaces.
Ça peut effectivement passer par les réseaux sociaux, ça peut passer aussi par des tentatives de déstabilisation, par des courriers, ça peut passer aussi par des plaintes à l'égard de magistrats qui peuvent être saisis de certaines procédures dans l'espoir que peut-être ils en soient dessaisis. Donc c'est très déstabilisant.
Pour protéger les personnels, un bureau dédié a été créé l'an passé au sein de la direction des services judiciaires du ministère. Un groupe de travail réfléchit aussi à anonymiser les décisions mises en ligne dans le cadre de l'Open Data, a expliqué Rémi Heitz, le procureur général près la Cour de cassation. Mais il n'est pas question de rendre la justice en cagoule, a dit Pierre-Yves Couillot, un autre membre du CSM, la publicité de la justice devant rester un principe cardinal. Christophe Soulard, le premier président de la Cour de cassation et président du CSM, insiste lui sur la déontologie des magistrats renforcée par une charte qui sera publiée ces prochains mois.
La déontologie, c'est un des ingrédients de la légitimité du juge et c'est pourquoi il est aussi important que les règles déontologiques figurent dans un document. C'est d'abord une valeur positive. La déontologie, ce n'est pas une contrainte qu'on impose aux magistrats sous peine de sanction, c'est d'abord une valeur positive qui va légitimer encore une fois sa décision et dont il doit se sentir porteur et dont il doit être fier.
Il s'agit donc de renforcer la confiance dans l'institution judiciaire, mais ce n'est pas une mince affaire compte tenu de l'ignorance de son fonctionnement, y compris chez des gens très éduqués, a dit l'ancienne ministre Elisabeth Guigou, présente également ce matin au CSM.
Anne Fauquemberg, une peine de 4 ans de prison assortie intégralement de sursis est requise contre l'ancien Premier ministre François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. L'avocat général requiert également contre lui une amende de 375 000 euros et 10 ans d'inéligibilité. Mais ces réquisitions écartent la partie ferme d'un an qui avait été prononcée en 2022 par la Cour d'appel de Paris. La culpabilité de François Fillon est déjà définitivement acquise. C'est seulement sur la peine que la Cour de cassation a ordonné à la Cour d'appel de se prononcer. La Cour d'assises de Paris avait condamné par défaut l'an dernier 3 hauts responsables du régime syrien de Bachar al-Assad à la perpétuité. À partir d'aujourd'hui, elle juge un autre Syrien, un ancien rebelle salafiste, pour complicité de crimes de guerre commis entre 2013 et 2016 en Syrie. Dans ce procès, filmé pour l'histoire et qui se tient en vertu du principe de la compétence universelle, Majdi Nema, ancien membre du groupe Jaïch al-Islam, encourt 20 ans de réclusion criminelle. Et alors même que les débats n'ont pas encore débuté, Florence Turm, la tension est déjà vive sur le principe de la compétence universelle et aussi sur l'absence de plusieurs des témoins cités.
Oui, d'abord parce que la défense soulève l'incompétence de la Cour, autrement dit la légitimité de la France à juger l'accusé, Majdi Nema, un colosse de 36 ans, seul dans le box et qui d'emblée nie les faits qui lui sont reprochés. Il faut que vous compreniez, lance l'un de ses avocats, ce que l'on vous demande de faire. Romain Ruiz s'adresse aux jurés, 4 femmes et 2 hommes tirés au sort et qui entourent les 3 magistrats de cette cour d'assises. Nous allons parler d'une guerre abominable que nous n'avons pas connue, d'un homme qui n'a pas eu d'autre choix que de se révolter, vous allez devoir vous mettre dans sa tête à lui et vous ne pouvez pas car nous ne sommes pas Syriens. La compétence universelle qui permet pourtant à confirmer la Cour de cassation de juger Majdi Nema pour des faits commis en Syrie car il a été arrêté sur le sol français quelques mois après son arrivée à l'université d'Aix-Marseille. Mais ce qui a changé depuis le 8 décembre, c'est la chute du régime de Bachar al-Assad. C'est bien à la Syrie de le juger, insiste encore la défense, quand les parties civiles pointent les liens possibles entre Jaïch al-Islam, le groupe auquel appartient l'accusé, et la coalition HTC actuellement au pouvoir. Un contexte très particulier, une situation loin d'être consolidée, souligne le parquet national antiterroriste qui ne peut que constater l'absence d'une quinzaine de témoins, plus de la moitié de ceux cités à l'audience. Un autre veut être entendu à huis clos, l'une des parties civiles s'est désistée et la raison reste la même, précise l'un de leurs avocats, des pressions, des menaces, certaines très récentes, mais aussi la peur de mettre en péril les familles restées en Syrie.
L'accusé invoque lui aussi le droit à être jugé dans son pays. La Cour rendra sa décision demain. La France a dépassé les 400 cas de rougeole depuis le début de l'année. En un trimestre, on a presque atteint les chiffres de toute l'année 2024, selon les données de Santé publique France. Une nouvelle illustration donc de la recrudescence de cette maladie. Les hospitalisations et les complications ont touché majoritairement des nourrissons et des jeunes enfants, mais également de jeunes adultes. Demain, le temps restera très ensoleillé. Des nuages reviendront l'après-midi sur la Bourgogne, les Alpes et la Corse. Le vent d'automne sera soutenu en Occitanie. Au lever du jour, il fera de 8 degrés dans le nord-est à 15 sur le littoral varois. Les maximales atteindront 24 à 28 degrés. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.